France Culture. Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Totnes est une petite enclave d'esprit écolo au milieu du Devon. Les gens, les clients, ils sont intéressés par les thématiques vertes.
Nous avons décrété l'urgence climatique et nous voulons nous assurer que Totnes reste une ville agréable dans 20, 30, 50 ans pour les nouvelles générations.
En fait, si vous pensez que pour pouvoir changer quelque chose là où vous habitez, il faut attendre que 100% des habitants pensent que votre idée est merveilleuse, vous ne ferez jamais rien.
Dérèglement climatique, espèces menacées d'extinction, épuisement des ressources, l'humanité est en danger, nous disent les spécialistes de l'environnement. Revoir nos modes de vie n'est plus une option, mais une nécessité. En France, l'exécutif affirme avoir pris conscience de l'importance des enjeux. « J'ai changé », assure Emmanuel Macron. Et Édouard Philippe plaide pour une écologie souriante, citant le projet de loi anti-gaspillage dont l'examen va débuter au Parlement, pour montrer que le gouvernement s'engage davantage en matière d'écologie. Simples citoyens et élus locaux n'ont pas attendu l'État pour multiplier les initiatives écologiques. 150 villes et villages, comme Ungersheim en Alsace, ont même rejoint le réseau international de la transition. Il rassemble plus de 2000 initiatives à travers le monde, visant à réduire la consommation d'énergie fossile, à relocaliser l'économie, à atteindre l'autonomie alimentaire et à renforcer les solidarités. Cette démarche a été initiée par le Britannique Rob Hopkins, enseignant en permaculture, qu'il a d'abord expérimenté dans la petite ville de Totnes, en Angleterre. Depuis 2006, les quelques 8000 habitants de cette commune du Devon l'ont vu se métamorphoser. Multiplication des panneaux solaires, réduction des déchets, développement de la production locale. À ce rythme, la ville espère bien parvenir à l'autonomie énergétique et alimentaire en 2030. Est-ce un effet de mode ou une solution transposable partout? L'action locale est-elle la meilleure échelle pour agir? Totnes, vrai ou faux modèle de transition écologique? C'est un reportage signé Marion Lourd. Dans Grand Reportage, le magazine de la rédaction, nous recevons Rebecca Wangler. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre du mouvement écologiste Alternatiba, un mouvement qui a une philosophie assez proche de celle de Rob Hopkins.
C'est ça, oui. Vous voulez que je développe un peu? Oui, donc Alternatiba, c'est un mouvement citoyen lancé en 2013 au Pays Basque, mais qui s'est développé rapidement en France et aussi en dehors de la France, Belgique, Sénégal. Enfin, aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de groupes et l'esprit assez similaire, c'est-à-dire l'idée, c'était de lancer un mouvement populaire, massif et dans un esprit très positif pour agir sur l'urgence du dérèglement climatique.
Et avec nous également, mais au téléphone, Daniel Cueff, qui est maire de Langouette en Ille-et-Vilaine, maire sans étiquette mais avec de fortes convictions écologistes. Il a notamment pris un arrêté anti-pesticides dans sa commune, arrêté suspendu ensuite par le tribunal administratif de Rennes, mais la bataille n'est pas finie. Et puis en direct de Londres, notre reporter Marion Lourd. Marion, vous suivez cette semaine les déboires de Boris Johnson. Au Royaume-Uni, on parle énormément du Brexit, sujet qui éclipse largement les questions environnementales.
Oui, bonjour à tous. Oui, le Brexit, effectivement, ça éclipse tout, ça prend toute la place dans les médias et dans l'agenda politique. Et même Boris Johnson, en fait, qui essaye de lancer le débat sur les questions nationales au Royaume-Uni, il parle policier, il parle santé, il parle économie, il ne parle pas du tout environnement. Et il faut savoir que récemment encore, les conservateurs se posaient la question d'assouplir les règles d'urbanisme pour permettre de construire plus de logements. Ils auraient mis fin ou assoupli la ceinture verte, qui est une ceinture verte de forêts et de campagnes obligatoires autour de la ville de Londres. Ils auraient assoupli les règles et permis la construction sur ces zones vertes. Donc on voit bien que l'environnement, ce n'est pas du tout le premier de leurs soucis aujourd'hui. Alors il y a quand même effectivement un petit village qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, vous savez, comme dans Astérix, et c'est Totnes, effectivement, dans le Devon. Une enclave de charmante folie, c'est ce que disent des commerçants là-bas.
Et nous partons tout de suite à Totnes où nous allons d'abord faire un tour sur le marché.
Oh,
Je m'appelle Mélanie, je vis en dehors de Totnes, à Newton Abbot. Je vends des fruits et des légumes du monde entier, mais en ce moment c'est fabuleux d'avoir la production locale. Des tomates, des cerises, beaucoup de fruits et ce genre de choses. La production locale, je pense, ça fait moins de déplacements pour les fruits et légumes. Mais aussi souvent c'est cultivé par des petits fermiers, il y a moins de pesticides et je pense qu'ils ont meilleur goût. Le Devon a un sol de bonne qualité. Et je pense que Totnes est une petite enclave d'esprit écolo au milieu du Devon. C'est juste l'esprit d'ici parce que, par exemple, les gens, les clients, ils sont intéressés par les thématiques vertes. Beaucoup d'entreprises locales se portent bien. Je veux dire, dans cette grande rue seulement, il y a 4 bouchers indépendants. Il n'y a pas beaucoup de villes qui peuvent s'en vanter. Et avec une population aussi peu importante, parce que la ville n'est pas grande, ça veut dire que c'est très important pour les gens d'ici. C'est une petite enclave de folie charmante au milieu du Devon. C'est unique, c'est complètement unique, Totnes. Peut-être parce qu'il y avait l'école d'art avant et ça attirait les gens.
Outside of London, how many places
Je veux dire, en dehors de Londres, combien de villes ont une Gay Pride? Ici, le mot d'ordre, c'est tolérance, l'inclusion. J'adore venir travailler ici. J'aime la diversité et les gens.
Je viens de voir vos sacs en plastique.
Oh oui, ils sont biodégradables. J'ai changé il y a un an parce qu'il faisait chaud. Et voilà, il fallait faire quelque chose. Et en particulier ici, à Totnes.
Nous sommes samedi et c'est jour de marché à Totnes. Nous nous trouvons sur la place principale de la ville, au milieu des stands. Il y a beaucoup de vêtements colorés, des fruits et des légumes locaux, un stand de thé et de café, beaucoup de bijoux en argent et aussi un stand de vinyle. Et nous allons à la rencontre des clients et des commerçants de ce marché.
Je m'appelle Gabriela Lana, moi je tiens le magasin Green Fibers en haut de la ville. On vend du coton organique, du linge de lit, des sous-vêtements, des habits, du linge au mètre, des textiles organiques. J'habite à Totnes, j'ai une entreprise à Totnes, ça fait 22 ans. C'est assez international ici, moi j'ai un accent, je connais beaucoup de gens qui ne sont pas anglais et ici tout le monde s'en fiche. Pour la taille de la ville, c'est très international. J'imagine que quand on habite ici pendant aussi longtemps, on tient certaines choses pour acquises. Et c'est seulement quand on va ailleurs qu'on réalise que c'est particulier ici, pour le recyclage, pour la nourriture locale, pour la diversité des magasins. Quand on va dans n'importe quelle autre ville de la taille de Totnes au Royaume-Uni, il y a toujours les mêmes magasins, des chaînes, toutes les grandes rues se ressemblent. Par rapport au reste du Royaume-Uni, ici, c'est assez unique.
Je suis Phil Lam, je travaille pour Growers Organics, une entreprise qui fait pousser des légumes bio près de Plymouth. C'est à 16 miles, environ 25 km, ce n'est pas très loin. Aujourd'hui, nous sommes au marché de Totnes. En fait, nous venons tous les vendredis et samedis de février jusqu'à, disons, septembre-octobre. On vous aide à cultiver vos propres tomates, à planter vos propres légumes, et comme ça, vous pouvez avoir vos légumes dans votre jardin.
Est-ce que vous avez beaucoup de clients?
Il peut y en avoir beaucoup ici. C'est un marché d'un genre très différent. Les gens réalisent qu'ils ne veulent pas mettre de produits chimiques sur leur nourriture. Certains jours, au pic de la saison, on a jusqu'à 150 clients par jour.
Qu'est-ce que vous pensez de la ville?
Totnes, c'est unique. Totnes, c'est Totnes. Ici, il y a beaucoup de magasins différents, beaucoup de boutiques indépendantes, quelque chose qu'on n'a pas dans beaucoup d'autres villes. Ici, il y a beaucoup de restaurants bio, juste à côté, vous avez un endroit très sympa qui sert des graines ici. Et je crois aussi qu'il y a beaucoup de restaurants végétariens. C'est un endroit vraiment intéressant.
C'est donc jour de marché ce samedi à Totnes. L'occasion aussi de flâner dans les commerces indépendants de High Street, la rue principale. Parmi eux, le magasin Zero Waste Shop comprenait la boutique sans emballage, lumineux, un décor tout en bois et une grande variété de produits.
Alors je vais vous montrer comment ça marche. Vous pesez votre peau et vous pouvez imprimer une étiquette ou alors écrire le poids au stylo dessus. Donc l'étiquette sort et là c'est le poids du pot. Maintenant, vous avez le choix entre beurre d'amande ou beurre de cacahuète. Amande, vous voulez. Donc, vous mettez votre pot là-dessous, vous pressez Start. ça écrase les noix. Vous appuyez juste sur le bouton rouge. Là, je peux vous dire combien ça fait et vous pouvez toujours en prendre plus si vous voulez. Donc, on cherche juste le produit sur la machine, c'est beurre d'amande. Là, on enlève le poids du pot en verre. Je m'appelle Claire, je viens d'Écosse à l'origine. J'ai déménagé ici il y a un an et demi. J'ai commencé à travailler au magasin Zéro Déchet quelques mois seulement après être arrivée. Je faisais juste mes courses ici et puis j'ai sympathisé avec les fondateurs. J'adore ce qu'ils font et je voulais en être. Donc ici, on apporte ces contenants de n'importe quel type du moment qu'on peut les peser, les remplir et les peser à nouveau. Il y a aussi des sacs en papier au cas où les clients oublieraient leurs contenants ou ne voudraient pas se promener partout avec eux. Et finalement, on paye juste pour ce qu'on prend. Alors, on a beaucoup d'aliments différents, des graines, du riz, des noix, plusieurs types de céréales, des farines, du sucre. On a aussi un petit rayon hygiène sans emballage, avec des shampoings, des après-shampoings, des produits de nettoyage aussi.
Quand est-ce que le magasin a ouvert ?
En mars 2017, c'était la première boutique zéro déchet du Royaume-Uni. Depuis, il y en a eu des centaines.
À propos des prix, est-ce que c'est moins cher d'acheter des choses comme ça en vrac que dans un supermarché ?
On trouve vraiment que ça devrait être moins cher pour encourager les gens à faire leurs courses de cette façon. Et ça, c'est vraiment le futur. Donc ça devrait être moins cher, mais la réalité, c'est que les prix sont les mêmes. Les pâtes bio, par exemple, c'est 1,60€ les 500 grammes. Les pois chiches secs, c'est 2,13€.
Ils viennent d'où les produits, en fait ?
On essaie de vendre la production locale le plus possible. Mais évidemment, les choses comme les haricots ou le riz viennent d'Europe et dans certains cas, de Chine.
Est-ce que vous pensez que le magasin fonctionne bien aussi parce qu'on est à Totnes et qu'il y a une espèce d'esprit écologiste ?
Oui, bien sûr. Totnes est un vrai noyau de gens qui ont un mode de vie écolo, conscients de leur impact sur l'environnement. Ça fait venir des gens ici. Le zéro déchet marche dans des endroits de plus en plus nombreux, mais Totnes a toujours été en avance et précurseur sur cette façon de penser. Les propriétaires se sont lancés au bon moment. Le concept devient de plus en plus attractif pour les gens. Et les propriétaires lancent d'ailleurs une nouvelle entreprise en ce moment. L'idée, c'est qu'ils vont livrer avec un van électrique pour approvisionner les gens en bouteilles de verre pleines de lait végétal. Il y aura donc un service de livraison. Ils apporteront les bouteilles pleines au domicile des gens et ils récupéreront les vides et puis ils les laveront. Ils vont livrer comme ça 7 types de laits végétaux différents. C'est ça la prochaine aventure.
Là, j'ai fini le travail et je rentre à la maison. Je suis juste passée acheter du liquide vaisselle et du quinoa à la boutique Zéro Déchet. Je le fais parce que j'essaye au maximum de réduire la quantité de plastique que je rapporte chez moi. Et c'est tellement facile avec ce magasin. Ça n'est pas trop cher. La plupart des choses sont même moins chères que ce qu'on paierait dans un supermarché. Donc c'est vraiment bien. Au départ, je pensais que ce serait plus cher, parce qu'en général, c'est le cas des solutions alternatives. Mais quand on regarde le quinoa que j'ai acheté, je crois qu'il est à 1,22€ et je viens de remplir un pot de quinoa pour 1,10€. En général, je me fournis chez la Pomme Joyeuse, c'est une boutique locale, et j'en aurais eu tout de suite pour 2,20€, 3,30€ pour la même quantité. Mais je pense que comme ici, ils achètent en gros, ils peuvent pratiquer des prix moins élevés.
Est-ce que vous venez ici souvent ?
Oui, je viens ici le plus possible. Toute mon épicerie vient d'ici. Et aussi le liquide vaisselle, ce genre de truc. En fait, la seule chose que je n'achète pas ici, ce sont les fruits et légumes frais.
Est-ce que c'est pratique ?
Oui, j'ai un bébé, donc je me promène de toute façon toujours avec un grand sac plein de choses. Quand je suis venue la première fois, je transportais des pots avec moi parce que je ne voulais pas non plus utiliser des sacs en papier, mais c'était vraiment très lourd. Donc parfois, j'utilise quand même les sacs en papier, mais ça n'est pas si difficile et puis c'est toujours mieux que le plastique.
Est-ce que vous trouvez tout ce dont vous avez besoin ici ?
Tout ce qui est sec. Pas de nourriture fraîche, bien sûr, pas de fruits et légumes, mais à part ça, on trouve presque tout.
Donc là, nous allons faire un tour en ville.
Alors ça, c'est la place du village, où nous avons beaucoup de marchés. C'est très utile, en fait, pour une ville qui veut être soutenable, car on a beaucoup de produits locaux et bio qui viennent des producteurs locaux. Là, c'est notre hôtel de ville et je vais vous montrer les panneaux solaires de l'autre côté du toit. Ça rapporte presque 7000 euros de revenus à la ville chaque année. On a beaucoup de jardins partagés à Totnes. C'est une bonne chose pour que les gens puissent passer du temps ensemble. Il y en a ici. On a aussi des magasins qui reflètent la société qu'on veut ici. Ce sont des commerces indépendants.
J'ai vu à propos des commerces indépendants qu'il y avait eu pas mal de manifestations contre les chaînes ici.
C'était une chaîne de café, Costa Café. C'était en même temps une question d'urbanisme et une inquiétude générale de la part des cafés locaux. Ils voulaient que le conseil municipal empêche l'installation de quelque chose qui pouvait vraiment leur nuire. En fait, les gens de l'organisation Ville de Transition et plusieurs restaurants ont organisé un festival du café indépendant. Tout le monde buvait du café dans les cafés indépendants et ça a provoqué une prise de conscience. Costa a juste dit « Non, on n'y va pas ». Maintenant, je vous emmène voir l'ancienne place du marché, là où on vendait les moutons. C'est le jardin qu'on utilise pour un projet lié à la santé. Les responsables ont travaillé avec les médecins d'ici. Le projet s'appelle les prescriptions vertes. Au lieu de prescrire des médicaments, quand les gens ont des dépressions, les médecins leur suggèrent de venir ici, dans ce petit jardin, que je trouve délicieux. Sue est une des personnes impliquées dans le projet. Ils peuvent s'asseoir et juste regarder les gens cultiver des légumes. S'ils ont envie, ils peuvent participer. Ils peuvent emmener de la nourriture à la maison et profiter de cette production.
Moi, je m'appelle Sue Holmes. Ce qu'on fait pousser ici, c'est un mélange de fruits et légumes qu'on pourrait cueillir dans la nature. On essaye de montrer les différentes façons de faire pousser tout ça, mais on veut aussi prouver qu'il y a un choix à faire et qu'on peut revenir à une façon plus naturelle de cultiver les fruits et légumes. On n'utilise pas de pesticides, on a beaucoup de pucerons sur les haricots, mais on utilise un mélange de vinaigre et d'ail. Ce projet n'est financé par personne, on doit continuer à lever des fonds. On a un peu plus d'argent cette année et sachez que toutes les contributions servent ensuite à entretenir le jardin.
Vous avez devant vous un autre projet de transition, le centre Réconomie. Ça fait partie de l'accord quand a été lancée la construction de toutes ces nouvelles maisons. On devait avoir un endroit qu'on pouvait utiliser pour faire prospérer l'économie locale. Donc dans ce bâtiment, il y a une salle de réunion, il y a des bureaux que les gens peuvent partager. Ils organisent un forum des entrepreneurs locaux qui invite les gens de toute la zone à venir enchérir pour soutenir les projets locaux. Je suis Jackie Hodgson, la maire de Totnes, une élue verte. Nous avons décrété l'urgence climatique et nous voulons nous assurer que Totnes reste une ville agréable dans 20, 30, 50 ans pour les nouvelles générations.
Qu'est-ce que ça veut dire déclarer l'urgence climatique ?
Ça veut dire acter qu'on a 12 ans pour faire de vrais changements. Il faut donc commencer dès maintenant pour que dans 12 ans, on soit neutre en carbone. Ça veut dire qu'on va devoir diviser par deux notre demande d'énergie et doubler la quantité d'énergie renouvelable qu'on utilise. L'engagement, c'est aussi de publier un rapport qui est en fait un document que j'avais rédigé avec l'organisation Transition Town Totnes il y a 10 ans. À Totnes, nous avons de la chance d'avoir Transition Town. On a aussi des groupes environnementaux comme Extinction Rebellion et puis des gens qui veulent changer les choses et s'impliquer. On a de la chance.
Est-ce que vous pouvez me donner des exemples concrets de ce qu'il y a dans ce rapport ?
Absolument. C'est rédigé comme une série de choses faisables avec ce que les individus peuvent faire, ce que les communautés peuvent faire ensemble, mais ce qui est du ressort des responsables politiques. Il y a trois thèmes vraiment clés dans ce rapport. Le premier, c'est la production alimentaire, parce qu'elle dépend tellement des carburants. Deuxième thème, c'est le transport, avec de plus en plus de gens qui utilisent la voiture. Et le troisième, ce sont les déperditions d'énergie dans nos maisons. Il y a donc trois enjeux clés. Pour la nourriture, par exemple, nous avons encouragé les gens à cultiver leur propre production. En termes de transport, on cherche des façons de faciliter la vie des gens en les incitant à utiliser les pistes cyclables et les chemins piétons pour les sortir de leur voiture, ce qui est meilleur pour eux. Et puis on a aussi Bob le bus, un service de bus communautaire soutenu financièrement par le conseil municipal. Mais c'est géré par 40 conducteurs. conducteurs de bus bénévoles. C'est incroyable. Pour ce qui est de l'efficacité énergétique, on incite les gens à visiter les maisons des autres, là où les gens ont fait des changements. Ils peuvent poser des questions aux propriétaires. Qu'as-tu fait pour ça? Ça t'a coûté combien? Où as-tu trouvé le matériel? Ce sont des choses simples, mais qui font une vraie différence. Parce que quand vous le faites au niveau d'un foyer individuel, et on a environ 4000 maisons à Totnes, ça peut faire une vraie différence.
Est-ce que vous diriez que Totnes est une ville pionnière en la matière?
Tout à fait. Le mouvement transition est vraiment un mouvement pionnier. Il a commencé en Irlande et puis il est arrivé ici quand Rob s'est installé, qu'il a rencontré des gens. Ils ont dit « transformons cette expérience en un réseau ». Et ça a rayonné depuis Totnes tout autour du monde. Ici, le conseil municipal est devenu un conseil de ville en transition. Ça veut dire qu'on travaille avec le mouvement transition qui a obtenu des subventions de la part de responsables politiques. Et maintenant, l'hôtel de ville est couvert de panneaux solaires qui nous rapportent de l'argent chaque année autour de 7000 euros et qu'on peut utiliser pour financer des projets.
Est-ce que vous avez de l'argent pour aider les entrepreneurs et les particuliers qui veulent faire des projets verts?
On a un fonds qui dispose peut-être de 3500 euros par an. Ce n'est pas beaucoup, mais ça permet de stimuler et de soutenir des projets. Ça fait une vraie différence.
Des projets comme par exemple celui de Johan Van Haas, le jeune glacier de la rue principale. Les clients sortent de sa boutique, l'œil gourmand, avec des cornets dégoulinants de glace aux couleurs vives.
Je suis venue ici acheter une glace parce que j'ai vu des gens parcourir la rue avec ces cornets à l'apparence inhabituelle et je me suis dit que j'allais essayer car il y avait beaucoup de gens qui avaient l'air de connaître ce glacier. Je me suis dit essayons et c'est divin. C'est absolument divin. Le parfum c'est chocolat belge. Je suis censée avoir arrêté le chocolat mais là c'est le paradis. J'ai vraiment beaucoup de chance.
Est-ce que pour vous c'est important les valeurs qu'ils défendent ici?
Pour être honnête, je suis juste rentrée. J'ai voulu essayer ces glaces. Je n'ai pas regardé le reste. Je m'y intéresserai plus la prochaine fois.
Ils disent que tout est bio, que c'est sourcé localement, que les fruits viennent de juste à côté.
Oh super! Moi, c'est une raison encore meilleure pour profiter de leur glace.
Oui, bonjour, je m'appelle Johan et je suis glacier à Totnes. Je suis demi-néerlandais et demi-grec et maintenant je vis à Totnes il y a 10 ans.
Après plusieurs voyages autour du monde et des études, vous êtes revenu à Totnes, vous avez ouvert cette boutique. Est-ce que vous pouvez me décrire l'endroit?
Alors ici, c'est petit, mais c'est beau. En fait, c'est une seule pièce. La moitié de la pièce, c'est l'atelier où on fait les glaces. On les sert et on les vend dans l'autre moitié de la pièce. Généralement, j'arrive entre 4h30 et 5h du matin. Je commence à faire des glaces et on commence à servir à 11h. Parmi nos parfums, il y a chocolat, gianduja, pistache, nocciola. Mais ce sur quoi nous sommes très exigeants, c'est le fait d'utiliser des produits frais, issus de l'agriculture biologique, en particulier les fruits qui sont cultivés ici à Totnes pendant l'été. Ici, on trouve des baies et des fruits sauvages délicieux. On utilise aussi bien sûr des citrons verts. On les importe, mais on fait très attention à leur origine et à qui nous les fournit. Nos chocolats sont tous bio et certifiés, commerce équitable. Quelque chose d'important pour nous ici, c'est le fait d'être vegan. 38 à 40% des glaces que je sers aujourd'hui sont 100% faites à partir de plantes, sans aucun produit laitier. Quand j'utilise du lait ou de la crème, ça vient d'une ferme bio à 4 km d'ici. Une ferme où je peux aller et apprendre le nom des vaches. Toutes mes cuillères, toutes mes serviettes sont complètement biodégradables. Or, une cuillère en plastique, ça coûte un demi-centime. Une cuillère biodégradable, comme celle que j'utilise, c'est 6 centimes, soit 12 fois ce prix. Ça fait une vraie différence quand on en utilise des dizaines de milliers pendant l'été. La seule façon de le justifier économiquement, c'est de développer une relation avec vos clients, qu'ils s'intéresse à votre produit et à son aspect éthique suffisamment pour accepter de payer un peu plus. Nous, nous sommes peut-être 30% plus chers que les glaciers qui vendent des produits industriels, mais je pense que ce que vous mettez dans votre corps et dans votre bouche est 100% meilleur. Et je crois que mes clients sont d'accord. Nous sommes une petite entreprise. J'ai deux personnes qui travaillent dans la boutique, mais mon objectif, c'est d'avoir plus de boutiques dans la région dans les 2 ans à venir, en ayant toujours 2 ou 3 personnes de la ville choisie comme copropriétaires. Propriétaire de l'affaire, pour avoir une sorte de coopérative de travailleurs. Mes marges sont inférieures à celles des autres, parce que mes coûts sont élevés, même si je pratique des prix plus importants. Mais comme le produit est très bon, et comme les gens se préoccupent de plus en plus de ce qu'ils mangent, je pense que je vends beaucoup plus de glace que n'importe qui d'autre dans cette ville, par rapport à mon nombre de mètres carrés et d'heures de travail. C'est un succès.
Pourquoi vous êtes venu ici?
Totnes a une communauté qui cherche à faire la transition énergétique. Il y a aussi un espace de coworking et des projets pour aider les entrepreneurs qui ont une conscience économique et sociale. Je pense que ça marche à Totnes, parce que la ville était déjà une ville progressiste. J'ai l'impression que toute la ville m'a aidé à lancer mon entreprise. Les gens ne sont pas seulement venus dépenser leur argent dans ma boutique, mais ils ont fait de la publicité auprès des touristes, ils nous ont aidés à trouver du personnel, ils ont même créé des t-shirts pour nous. Des gens font le marketing de notre boutique bénévolement, sans être payés. C'est extrêmement précieux quand on n'a pas d'argent pour lancer son entreprise. Il y a des gens ici qui se disent intéressés pour investir dans l'entreprise. En fait, on n'a pas besoin de banque si on a une affaire qui marche et un fan club tant qu'on est intègre et qu'on n'a pas de gros ratés dans son parcours. Totnes est une ville alternative, une ville verte, en fait depuis les années 20. Je crois que c'est une des deux seules villes au Royaume-Uni où nous avons un maire vert et où le parti vert est le premier représenté. Moi je suis venu à Totnes pour la première fois en 2010 pour étudier au Schumacher College, un établissement spécialisé dans les questions environnementales et sociales. Après une carrière de 10 ans dans le pétrole, j'ai eu une crise de conscience parce que de plus en plus, je me rendais compte de ce qui se passait pour notre planète. Je voulais me sortir de cette carrière, alors j'ai étudié un an au Schumacher College. J'étais inspiré par les gens qui habitent et qui travaillent à Totnes, comme Rob Hopkins du mouvement de la transition.
Peut-être que vous pouvez m'expliquer comment c'était d'étudier au Schumacher College, comment ça marche.
C'est un environnement très différent d'une université traditionnelle. Une expérience personnelle, mais dans le cadre d'une communauté où tout le monde participe à l'espace d'apprentissage. On avait le privilège d'écouter des pionniers de ces domaines, tout en vivant en même temps ensemble dans un espace où on faisait pousser de la nourriture, où on entretenait, où on nettoyait. Dans un établissement aussi écologiste et plein d'écolos fanatiques, j'étais le gars qui avait une formation économique et venait de l'industrie pétrolière. J'étais donc un mouton noir. Ça a transformé ma vie, vraiment en mieux.
Le Schumacher College est-il l'un des secrets du modèle écologique Totnes ? Pour le vérifier, il faut aller voir sur place, à 10 ou 15 minutes en voiture du centre-ville, au cœur de la verdure, des vieux murs, des champs d'oiseaux et un professeur occupé à corriger des copies de dissertations sous les feuillages.
Il y a des espaces pédagogiques ici où on fait beaucoup d'éducation artisanale. Ici, la forêt, c'est un formidable terrain de jeu pour les étudiants.
Donc, il y a des cabanes. Et ça, c'est quoi ?
C'est une sculpture, quelque chose qu'on a monté pendant que les étudiants travaillaient. Des gens dorment dedans parfois. Ces dernières années, on s'est mis à produire beaucoup plus de nourriture. Il y a un nouveau programme d'horticulture. Je crois qu'il y a une douzaine de jeunes qui apprennent l'horticulture.
Donc là, c'est un potager, en fait ?
Ce sont plutôt des herbes aromatiques. La production de nourriture se fait de l'autre côté de la rue.
Je m'appelle Jonathan Dawson. Je suis le coordinateur de notre programme maîtrise qui s'appelle Economics for Transition, l'économie pour la transition.
Qu'est-ce que c'est que le Schumacher College ?
Le Schumacher College a été créé en 1991. Il fait partie du trust de Dartington Hall, une organisation plus grande dédiée à l'innovation sociale. Et le but de l'établissement, c'était vraiment de créer une université écologique. Donc l'idée, c'était que nous sommes en transition, nous sommes une civilisation de transition, et nous devons devenir beaucoup plus attentifs sur le plan écologique. Donc par exemple, dans le cursus économique, notre discipline est beaucoup plus nourrie par la pensée écologique, la pensée féministe, la pensée comportementale, bref, on regarde en dehors de l'économie traditionnelle orthodoxe. Et les étudiants sont encouragés à apprendre pas seulement avec leur esprit, mais aussi avec leur corps et leurs émotions.
Qui sont vos étudiants en fait ? Ils viennent d'où ? Qu'est-ce qu'ils cherchent ?
On a trois masters, et là il y a deux profils principaux. D'un côté, des jeunes dans leur vingtaine ou proches de la trentaine qui font juste un master. De l'autre, des gens entre 35 et 50 ans, au milieu de leur carrière, ils ont eu des succès dans leur carrière traditionnelle et ils se rendent compte que ça ne marche pas, que nous sommes à un tournant de civilisation et que travailler au cœur du système n'a plus de sens. Et donc ils viennent pour se réinventer, pour écrire une nouvelle page. Et ils viennent vraiment du monde entier. Nous, on essaye d'encourager les étudiants à ne pas nécessairement vouloir occuper un travail qui existe déjà, mais créer un travail qui n'existe pas encore. On est une quinzaine par groupe, par master. Donc, il y a environ 40 à 45 étudiants en master au Schumacher College à un moment donné. On est très influencé par les ashrams, ce modèle indien où les gens font des retraites dans la forêt.
Et donc, est-ce que vous auriez des exemples d'étudiants, peut-être avec qui vous êtes encore en contact, ou vous savez ce qu'ils ont fait après?
Je pense immédiatement à un Néo-Zélandais qui travaillait déjà dans un restaurant. Mais avec ce qu'il a appris ici, il est devenu tout feu tout flamme. Il est revenu en Nouvelle-Zélande et maintenant je crois qu'il est une sorte de célébrité, un genre de star de télé. Il a lancé des restaurants gratuits. D'abord, il récupère des déchets au marché et les recycle dans la chaîne alimentaire. Et ensuite, il y a cette idée de « c'est déjà payé ». Vous allez dans le restaurant et en fait, votre repas a déjà été réglé par la personne qui vous a précédé.
Et combien ça coûte d'étudier ici?
Je ne suis pas sûr, ce n'est pas mon domaine, mais ce n'est pas bon marché. Pour des étudiants européens, ça doit être 1300 à 1700 euros par an. C'est une théorie du changement un peu élitiste. Il existe un modèle selon lequel il existe vraiment des pionniers et puis des gens qui les suivent de près et ensuite ceux qui adoptent le changement plus tard. Ce qu'on fait, nous, c'est construire des ponts entre les pionniers et l'élite éclairée, des gens qui ont de l'argent à la banque et qui ont un pied dans la réalité actuelle et un pied dans le futur.
Et le futur, c'est notamment l'énergie solaire.
Bonjour, je m'appelle Steve Paul. Je suis l'un des plus vieux habitants de Totnes. Et nous voilà au Grove, un très bel endroit de Totnes. Je vais vous parler de mes panneaux solaires.
À Totnes, l'organisation Transition Town a organisé la distribution des aides gouvernementales à ceux qui souhaitaient s'équiper de panneaux photovoltaïques. Steve est un des bénéficiaires.
Je n'ai que 10 panneaux solaires, vraiment. C'est tout ce que j'ai. Ils sont là depuis 10 ans. Et le câble, regardez, il rentre à travers le toit et ensuite, il y a un onduleur dans le grenier. Et si on retourne dans la maison... Le câble descend par là, et donc quand je n'utilise pas moi-même le courant, ça retourne dans le réseau national. Il y a un moniteur là, qui va marcher, j'espère. Bon, alors j'ai fait presque 4 kilowatts par jour. Disons que j'ai fait 5 kilowatts aujourd'hui. Je vais gagner 2,80 €. Ça n'a pas l'air d'être beaucoup, mais sur un temps long, sur 10 ans, j'ai produit presque 14 000 kilowatts. Ça, c'est un schéma qui montre ma production sur une certaine durée. En 10 ans, j'ai produit presque 7 000 euros et 2,25 € pour aujourd'hui. Si on considère que les panneaux solaires m'ont coûté 6 700 euros, je suis bénéficiaire. Ça a pris 10 ans pour y arriver, mais je suis bénéficiaire. Et une chose que j'ai fait, c'est d'isoler très bien la maison. Par exemple, regardez tous ces murs. Celui-là ou celui-là. Chaque fois que j'ai redécoré une pièce ou fait des travaux, j'ai mis de l'isolation sur les murs extérieurs.
Quand est-ce que vous avez décidé de faire tous ces travaux et de vous occuper de l'énergie de votre maison?
Il y a 12-13 ans, j'ai commencé à m'y intéresser. Et puis j'ai commencé à regarder les panneaux solaires. C'était très cher. Et heureusement, l'organisation Transition Town est venu avec ses subventions de 2200 euros pour mettre des panneaux solaires. J'ai eu la subvention de 2200 euros, mais j'ai payé 6700 ou quelque chose comme ça. J'ai contacté Transition Town, j'ai vu l'annonce dans le journal, j'ai candidaté et je l'ai eu. Et mon voisin a fait la même chose. Quelqu'un de Transition Town est venu plus tard, c'était un peu hippie. C'est vrai. Sérieusement, une de mes objections avec Transition Town, c'est que les gens qui participent ont parfois la tête dans les nuages. Quand il s'agit d'être pratique sur quelque chose, ils ont toutes ces belles idées. Et quand il s'agit de le faire, c'est autre chose. Mais je vais vous donner un exemple. Dès que j'ai eu la subvention, ils m'ont demandé d'ouvrir ma maison. Je l'ai fait pendant 4 ans pour que les gens puissent venir et pour leur montrer ce que j'avais mis en œuvre pour faire des économies d'énergie. Il y a toujours quelqu'un qui demande « Ça coûte combien d'isoler le mur ?» Et je réponds « 560 euros par mur ou quelque chose comme ça. » Il ne pourrait pas partir plus vite que ça. Je crois qu'il pense qu'on peut avoir ce genre de choses gratuitement, c'est à très courte vue.
Et lui a-t-il la tête dans les nuages? Notre périple à Totnes s'achève devant un café avec l'un des artisans de la transformation. Les titres de ses livres en disent long, par exemple « Le pouvoir d'agir ensemble, ici et maintenant, chez Actes Sud ».
Je m'appelle Rob Hopkins, je suis le fondateur de Transition Town Totnes et je dirige le réseau Transition. On a commencé à travailler ici en 2006 en partant de l'idée que si on essaie de tout changer à notre petit niveau, ce n'est pas suffisant. Et si on compte sur le gouvernement, ça risque d'être trop tard. On s'est dit qu'il y avait peut-être une solution intermédiaire, un endroit comme ici, où on pouvait se rassembler pour mobiliser les gens et utiliser leur imagination pour faire des choses, quel que soit leur but et quelle que soit leur origine. Et on a lancé depuis 50 ou 60 projets, certains à court terme, d'autres à long terme. Il y en a un certain nombre qui sont liés à la nourriture, comme les légumes qui poussent autour de la gare, par exemple. Il y a de nombreux jardins tout autour de la ville. Il y a plus de 400 espèces plantées dans la ville qu'on récolte régulièrement. On a aussi un projet qui consiste à construire 27 maisons ici pour les gens nécessiteux, avec des matériaux locaux. Un autre qui s'appelle Carrington Totnes, qui rassemble toutes les organisations de santé pour leur permettre de travailler plus facilement ensemble. Il y a beaucoup de projets artistiques, comme le Festival du film de transition, qui projette les meilleurs films de la planète sur le thème de la transition écologique, et aussi un projet qui s'appelle les rues de la transition, qui rassemble les gens avec leurs voisins pour leur permettre ensemble de réduire leur empreinte énergétique et leur utilisation d'eau, ce genre de choses.
Comment est-ce que vous les soutenez, ces projets?
Eh bien, si vous décidez de démarrer un jardin, par exemple, quelque part à Totnes, si vous le faites avec l'organisation Transition Town Totnes, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte bancaire, vous n'avez pas besoin d'avoir votre propre site web, vous n'avez pas besoin de faire une newsletter. À un moment donné, vous commencez à avoir besoin d'argent aussi. Mais ça n'est pas le principal. Au début, quand vous lancez le modèle, ça libère une fantastique énergie avec l'idée que tout est possible. On a vraiment fait émerger une culture ici dans la ville. L'idée, c'est que la communauté investisse dans les meilleurs projets. Vous voyez, au lieu d'avoir mon argent à la banque ou de me constituer une retraite, eh bien, je peux choisir de mettre mon argent pour soutenir tel ou tel projet. Et puis, il y a aussi de l'argent qui vient du gouvernement. Mais l'argent n'est pas l'essentiel au départ, je crois.
Comment vous avez été accueilli quand vous êtes arrivé, que vous avez fondé ça à Totnes?
Je suis arrivé ici en 2005. Je me souviens avoir rencontré la femme qui était maire de la ville à l'époque. Et elle m'a dit plusieurs fois par la suite que lorsque j'étais allé la voir pour lui parler du projet Transition Town Totnes, elle m'avait trouvé complètement fou. Et maintenant, 12 ans plus tard, elle dit qu'elle est sûre aujourd'hui que je suis effectivement complètement fou. En fait, il y a des gens qui se sont jetés dans le projet assez vite. Et l'impact que ça a eu sur cette ville, en attirant du monde ici, en termes de réputation et de lieux qui inspirent d'autres gens sur la planète, a été extraordinaire.
Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que vous avez la tête dans les nuages et pas les pieds sur terre ?
C'est une critique vraiment très injuste de dire que Transition Town n'a pas les pieds sur terre. C'est un projet très pragmatique. Le bilan le prouve. En fait, je ne pense pas que ça pose un problème d'avoir la tête dans les nuages. Je viens de finir un nouveau livre sur l'importance de l'imagination dans notre culture aujourd'hui, dans la vie publique, dans l'éducation. On a l'impression qu'il y a de moins en moins d'espace pour ce genre d'imagination. Alors si quelqu'un dit que Transition Town a la tête dans les nuages, on peut prendre ça comme un compliment. Mais si quelqu'un dit qu'on n'a pas les pieds sur terre, c'est clair, il ne sait pas de quoi il parle. En fait, si vous pensez que pour pouvoir changer quelque chose, là où vous habitez, il faut attendre que 100% des habitants pensent que votre idée est merveilleuse, vous ne ferez jamais rien. Le seuil critique est beaucoup plus faible que ça. On a fait un sondage il y a 5 ou 6 ans qui montre que 3/4 des gens à Totnes ont entendu parler de Transition Town. 66% des gens pensent que c'est une bonne idée. 1/3 a déjà expérimenté l'un de ces projets. Et peut-être 2 ou 3% ont vraiment été impliqués dans ces projets. On n'a pas besoin que tout le monde s'investisse. Il faut juste suffisamment de gens pour faire bouger les choses. Et un petit groupe de personnes peut faire un travail fantastique. À l'échelle du Royaume-Uni, il y a peut-être 500 ou 600 groupes aujourd'hui. En France, il y en a 160. Et on sait qu'il y a 50 pays dans lesquels il y a des groupes qui travaillent sur la transition.
Avec tous ces groupes, est-ce que vous pensez que ça va assez vite pour combattre l'urgence climatique ?
On vit maintenant une époque vraiment intéressante, avec des groupes comme Extinction Rebellion, avec les gouvernements qui déclarent l'état d'urgence climatique. On a l'impression que les choses commencent à bouger beaucoup plus vite qu'avant. Et si les hommes politiques ne bougent pas assez vite, alors il faut qu'on les sorte de là et qu'on aille chercher de nouveaux politiciens. Il y a de plus en plus de gens autour du monde qui s'impliquent dans la transition climatique et qui deviennent membres de nouveaux gouvernements. J'espère que les prochaines générations tiendront les politiciens d'aujourd'hui responsables de la négligence criminelle qu'ils ont eue. Nous n'avons qu'une petite fenêtre pendant laquelle on peut peut-être encore faire quelque chose. Et je pense, comme beaucoup d'autres gens, que nous n'avons pas d'autre option que de mettre toute notre énergie et notre temps, notre engagement, pour essayer de faire quelque chose. All I need is you. All I need is you. All I need is you.
Totness, vrai ou faux modèle de transition écologique, un reportage de Marion Lour avec Annie Bro à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Avec nous pour commenter et compléter ce reportage, Rebecca Wangler, membre du mouvement écologiste Alternativa, et Daniel Cueff, maire de la commune bretonne de Langouette. Alors, les habitants là qu'on a entendus dans ce reportage ont l'air très heureux hein, à Totness. Je suppose quand même, Rebecca Wangler, que tout n'est pas si facile, notamment au début. Quelles sont les principales difficultés auxquelles on peut se heurter quand on veut se lancer dans un tel processus ?
Alors, c'est le plus difficile au début, c'est toujours de, je pense, de faire comprendre aux gens que c'est possible. Et ça, c'est vraiment un point commun entre ce qu'on a pu entendre là sur Totness et ce que nous, on a essayé, et je pense assez bien réussi pour l'instant en France. C'est cet équilibre entre faire comprendre aux gens qu'il y a une vraie urgence, le côté un peu catastrophiste qu'il peut y avoir dans le fait de parler de l'urgence climatique, du risque d'un effondrement, et en même temps de montrer que on n'est pas impuissant, qu'on peut faire collectif, donc ce qu'ils ont fait à Totness, et que le monde à construire l'alternative qui existe. Elle est souhaitable. On peut construire un monde qui est plus solidaire, qui est plus juste et donc qui est plus durable. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à faire passer au début. Et donc, la solution que nous, on a trouvée dans Alternativa pour répondre à ce défi, c'est de faire un peu ce que le reportage sur Totness vient de faire, c'est-à-dire de créer une vitrine de toutes les alternatives qui peuvent déjà exister dans des villes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se bougent, qui sont des porteurs d'alternatives dans tous les territoires. Et donc, en 2013... à Bayonne, c'était le tout premier groupe Alternativa, on a lancé ce qu'on appelle des villages des alternatives qui se sont développés ensuite sur plein d'autres territoires où justement l'idée c'était d'occuper toute la ville pendant une journée avec des stands, des ateliers, des animations où on implique toutes les personnes qui montrent que c'est possible de travailler d'une autre manière. Et donc ça peut être une porte d'entrée, je pense, pour beaucoup de personnes.
Daniel Cueff, c'est difficile pour vous de convaincre les habitants de Langouette de mettre en œuvre la transition écologique. Est-ce qu'il y a des oppositions fortes au sein de la commune ?
Oh oui, j'ai même jamais essayé de convaincre. C'était perdu d'avance. Donc, ce que j'ai plutôt essayé de faire à partir de 1999, c'est plutôt de faire de l'écologie plutôt que d'en parler. Et donc, à partir du moment où, de fil en aiguille, on arrive à montrer concrètement dans la vie de la commune que, par exemple, on a pu transformer notre école en haute qualité environnementale, qu'elle récupère de l'eau de pluie, qu'elle est chauffée au bois, qu'elle est toute en bois, qu'elle a une acoustique incroyable, qu'elle produit 35% de son énergie électrique. Là, les gens se disent, ben, si on appelle ça de l'écologie, c'est pas mal. Ça vaut le coup de continuer. Et après, on passe à l'étape suivante où on fait une cantine 100% bio. Tous les produits servis aux enfants sont issus de l'agriculture biologique en circuit court. Donc ça fonctionne, ça marche, les enfants aiment bien, le cuisinier est un chef et tout le monde adore cette cuisine. Et voilà, donc c'est par le concret, si vous voulez, que l'on arrive à fédérer autour d'un projet commun, partagé, cette notion de développement durable qui, en tout cas à Longouette, en 1999, était purement théorique.
Donc pour vous montrer, c'est la meilleure façon de convaincre. Marion Lourd depuis Londres.
Oui, alors moi quand j'ai rencontré Rob Hopkins, hein, le théoricien de Transition Town, en fait lui il était content, c'est ce qu'il m'a dit, de voir arriver les militants écologistes un peu plus, violents, le mot n'est pas violent mais un peu plus rentre-dedans en tout cas, qui ont manifesté récemment au Royaume-Uni, parce que il a dit nous on a toujours fait la carotte, on a toujours proposé des solutions, mais quand même c'est pas mal d'avoir un petit coup de pouce de la part de ces gens qui font un peu le bâton en fait. Et il trouvait ça, lui, utile aussi d'avoir des gens qui occupent des ponts, qui bloquent des routes et qui font peut-être aussi avancer les choses de cette façon-là.
Mais alors, Rebecca Wangler, comment est-ce qu'on réussit à faire participer les habitants et pas seulement les plus militants ? Parce que certes, c'est toujours une minorité qui agit, mais il faut quand même qu'elle ait un peu de soutien. Si elle est toute seule, elle risque de s'essouffler.
Oui, alors ça c'est un des plus grands problèmes de toute forme de militantisme, mais c'est pas une culture conviviale dans les projets. C'est d'ailleurs quelque chose que nous on trouve très important, cette idée de que la conscience vient par la pratique, c'est-à-dire on n'essaie pas de convaincre les gens d'en faire des militants convaincus dès la première heure, mais de leur proposer quelque chose qui donne du sens, qui leur plaît. Ils rencontrent des gens formidables avec qui passent des super bons moments, et c'est par ça en fait qu'ils s'investissent de plus en plus dans un groupe où ils se sentent bien, où ils créent des liens de confiance aussi. Et ensuite, c'est via ces liens de confiance, je pense qu'on peut aussi rebondir vers des formes d'activisme plus confrontatif qu'on vient de l'entendre. Parce que ça, c'est pareil, je suis complètement d'accord. C'est nécessaire d'un côté de montrer les alternatives, de montrer que c'est possible de faire autrement, mais aussi d'être dans la résistance aux politiques climaticides, aux multinationales qui continuent de détruire le climat, la biodiversité dans le monde, parce que sinon on va pas être assez rapide dans la construction du nouveau monde, alors que celui dans lequel on vit actuellement est en train d'être détruit.
Alors Daniel Cueff, est-ce qu'à certains moments la contrainte est nécessaire ? Je crois qu'au mois de mai, vous n'avez pas vraiment pris le temps de la concertation avant de prendre votre arrêté anti-pesticides.
Oui, tout à fait, il faut un moment prendre des décisions. Là, j'étais face, si vous voulez, à un gros problème en tant que maire de la commune. J'avais des habitants extrêmement conscients des problèmes des pesticides et à qui on ne pouvait pas dire, on ne peut plus dire, écoutez, ça va venir bientôt, vous inquiétez pas, l'agriculture va se passer un jour ou l'autre des pesticides. Sauf que quand ils font faire les analyses d'urine de leurs enfants et d'eux-mêmes, ils s'aperçoivent qu'ils ont des taux, notamment de glyphosate, très importants. Et de l'autre côté, des agriculteurs, pourtant jeunes d'ailleurs, et qui décident d'acheter ou de louer de plus en plus de terres et de continuer une agriculture chimique. Donc j'ai pris une décision d'autorité, puisque le débat n'était pas possible, une décision d'arbitrage, qui était de dire, ben voilà, nous allons faire une distance de 150 mètres de toute habitation. Ça fait l'avantage de rassurer les personnes, les riverains, et ça donnait aussi la possibilité aux agriculteurs d'essayer de chercher comment ils pourraient cultiver ces 150 mètres sans utiliser de pesticides de synthèse. Donc voilà, ça, c'était possible, mais malheureusement, l'État a décidé via sa préfète de casser cet arrêté qui était pas un arrêté qui aller faire bouger les lignes, bouger les choses.
Mais alors justement, est-ce que dans la mesure où l'État qui dit participer votre préoccupation, partager votre préoccupation, ne partage pas votre méthode, est-ce que on peut avancer si l'État, dans ce cas particulier, mais dans d'autres cas la région ou le département, ne vont pas dans le même sens?
Effectivement, c'est-à-dire que logiquement, on devrait attendre de l'État qu'ils, par exemple, mettent en place la loi de 1990 européenne, demandant à chaque État, dans sa législation, de prendre précaution des habitants face à l'épandage des pesticides. Nous attendons depuis 1990. Ça n'arrive pas. Quand vous êtes maire d'une commune, et on ne peut pas dire aux habitants, ben écoutez, le gouvernement, ça va être en 2020, 2022, 2025, en fait, jamais. En fait, jamais. Donc, vous êtes obligé d'appliquer le principe de subsidiarité qui est dans la Constitution française et qui autorise le maire, en cas de carence avérée de l'État, à prendre et lieu et place les décisions qu'il ne veut pas prendre. Donc, j'ai pris dans ma commune cette décision, fait beaucoup de bruit, je l'imaginais pas du tout, mais elle a mis le doigt sur un vrai problème qui est celui de la décision politique. Et en toute connaissance de cause, continue à faire comme avant, alors que nous savons très bien les problèmes qui sont posés par les pesticides de synthèse.
Mais alors, Rebecca Wangler, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire au niveau local? Puisqu'on voit bien qu'il y a quand même, ça coince à d'autres niveaux. Qu'est-ce qu'il est véritablement possible de faire?
Alors, il y a plein de choses à faire, c'est-à-dire là on a entendu dans le reportage beaucoup d'exemples d'initiatives collectives, c'est-à-dire des citoyens qui se lance dans la construction d'alternatives. Donc on peut citer la monnaie locale, la création d'AMAP, donc de réseaux pour développer l'agriculture paysanne locale, plein de choses comme ça, des ateliers vélos. Mais là, je pense que vu l'urgence, ce qui est vraiment important, c'est d'actionner les leviers au niveau des collectivités. Parce que, bon, parfois, il y a l'État qui vient mettre des limites aux actions de la collectivité. Mais en réalité, en France, surtout au niveau des intercommunalités, on a quand même beaucoup de compétences intéressantes sur les bâtiments, sur les transports, sur l'alimentation, le foncier. Et d'ailleurs... les collectivités, quand on voit les émissions de gaz à effet de serre en France, sont responsables directement de 15% des émissions de gaz à effet de serre et indirectement, donc via leur politique d'aménagement, tout ça, jusqu'à 50%. Donc il y a vraiment des leviers d'action intéressants et c'est pour ça que nous, actuellement, ce qu'on conseille aux groupes, aux collectifs citoyens, c'est de s'engager dans un travail de plaidoyer local, donc d'influence de la politique publique locale. Donc ça peut être en mettant la pression sur des élus locaux ou là sur les candidats pour les élections municipales pour qu'ils prennent des engagements ambitieux pour le climat pour ces élections ou justement pour soutenir des élus ou des candidats qui sont dans cette optique écologiste qui ont besoin du soutien de la population pour être légitimes pour tenir bon face à l'État.
Alors vous avez cité l'exemple de la monnaie locale, mais je crois Marion Lourd que à Totnes une monnaie locale avait été mise en place et finalement elle a été abandonnée.
C'est surprenant, c'est que c'était présenté par Rob Hopkins comme presque une base de son projet de transition. Et en fait, visiblement, en tout cas d'après ce que j'ai eu comme réponse de la part des commerçants de la ville, la monnaie locale, elle a jamais été beaucoup utilisée et aujourd'hui, elle n'est plus en cours en fait. Alors, il y a des petits écriteaux chez certains commerçants qui expliquent pourquoi elle a été abandonnée, notamment en raison de la dématérialisation du paiement, parce que les gens payent de moins en moins en pièces et en billets. Mais voilà, est-ce que c'est nécessaire ce genre de monnaie locale et surtout, est-ce qu'un échec comme ça peut mettre à bas tout le projet de transition? C'était un peu la question que je me posais.
Rebecca Wangler.
Difficile question. C'est sûr que les monnaies locales, c'est intéressant comme exemple parce que c'est une alternative, mais en même temps, c'est vraiment radical. Donc, quand on pense à la radicalité dans le militantisme, on pense souvent aux actions de blocage, les manifestations, chose que nous, on fait aussi. Mais la monnaie locale, ça permet une vraie résilience dans un monde où le monde financier devient de plus en plus instable et de devenir indépendant, en fait, des marchés économiques. Donc, je pense que c'est vraiment assez fondamental pour développer les alternatives au niveau local, oui.
Alors, il y a aussi la question du coût de la transition. Daniel Cueff, on a l'impression que c'est quand même pas à la portée de tous. Quand on entend le reportage, il y a des produits plus chers. Il y a aussi, on entend qu'il y a recours à des bénévoles. On peut aussi se poser la question des risques de suppression d'emplois, parfois. Comment est-ce qu'on résout cette équation-là?
Je crois qu'on peut résoudre cette équation en essayant de ne pas se poser trop la question du coût. Par exemple, sur la cantine scolaire qui est 100% bio chez nous, on nous dissuadait de le faire au motif que cela allait coûter plus cher. Et au final, quand nous avons fait les comptes à la fin de l'année, nous avons vu que notre cantine coûtait moins cher. Pourquoi ? Parce que nous étions 100% bio. Nous étions soumis à la saisonnalité, nous avions des producteurs locaux, donc une logistique qui était tout à fait faisable. Nous avons diminué la part de protéines animales pour des protéines végétales. Bref, on a trouvé des solutions qui ont fait que le prix payé par la commune a été moins coûteux. Ça a été une surprise pour nous. Nous avions inscrit au budget municipal une augmentation un petit peu de la part communale. Et c'est l'inverse qui s'est passé. Donc il faut faire les choses. Et c'est en faisant les choses qu'on trouve des solutions. Nous avons fait la même expérience avec du logement social. Le logement social, si vous voulez, est bordé par des prix de sortie qui sont fixés par les conseils départementaux. On ne peut pas dépasser. Nous avons voulu faire du logement social très écologique, qui est en matériaux sains, qui dépense à peine 160 euros par an d'énergie. Et nous avons fait ça dans le prix du logement social en faisant converger une ingénierie. Merci. Et en disant à cette ingénierie, allez-y, faites-nous du logement social très écologique au prix du conventionnel.
Merci beaucoup Daniel Cueff, merci Rebecca Wangler. Totnes, vrai ou faux modèle de transition écologique? Le grand reportage de cette semaine était signé Marion Lourd, réalisation Annie Brault, avec Julien Calvas à la technique. Vous pouvez bien sûr podcaster l'émission sur franceculture.fr.